comme condition indispensable de l'accès à une Torah authentique, c'est-à-dire de l'accès à l'authenticité de la vérité. Okay. Et le Maharal avait donné une citation du Talmud, je rappelle, qui se trouve dans le premier chapitre du traité de Ta'anit, page 7a, où le Talmud met en évidence que la Torah nous indique elle-même que cela a été le cas de Moïse et que c'est la raison pour laquelle c'est Moïse qui a reçu la Torah pour la retransmettre, ou disons que c'est à travers lui que cet événement, sur lequel je reviendrai parce qu'il faut le mettre en évidence, sur cet événement impossible, a priori, pour, disons, la pensée philosophique, la pensée humaine autonome, naturelle, j'y reviendrai, puisse se produire. C'est-à-dire qu'il y a une relation de parole formulée entre l'absolu, qui était connu par tradition depuis les initiés de la première période de l'histoire de l'humanité, depuis le premier homme, qui était connu comme le créateur du monde, c'est un problème théologique pour lui-même, comment l'absolu a créé l'imparfait du monde, c'est un problème en soi. Okay. Mais qu'il puisse y avoir communication entre cet absolu et une des créatures, qui est la conscience du monde, qui est le monde capable d'être à l'écoute de l'absolu, c'est l'homme à travers l'homme, et cela est inouï, invraisemblable, impensable, pour la pensée humaine autonome. Et cela a été, dans tous les temps de l'histoire de la pensée humaine, en particulier pour notre problème, puisque nous sommes branchés sur la polarité philosophie-prophétie, depuis l'origine de la pensée philosophique, je vous en donnerai un exemple sur un problème étroitement lié, la notion de création a été refusée par les premiers philosophes grecs comme étant une notion blasphématoire. Ce qui peut paraître étonnant, disons pour la sensibilité biblique, par le fait que prétendre dire que le Dieu parfait, c'est un mot grec, et créer un monde imparfait, c'est blasphématoire. Attribuer au Dieu parfait la création du monde tel que nous le connaissons a été pensé comme philosophiquement blasphématoire. On a posé hier soir une question sur, disons, la situation du spinozisme dans les problèmes que nous étudions. Et Spinoza est un des philosophes pour qui la notion de providence, le fait que l'absolu se préoccupe de l'infiniment imparfait qu'est la créature est blasphématoire. Que la notion de miracle est blasphématoire, déranger l'absolu de son absolu pour qu'il intervienne dans le contingent. Vous voyez qu'il s'agit là d'une sensibilité radicalement opposée à la sensibilité biblique, et je dirais même l'inverse, que c'est la sensibilité biblique qui apparaît dans l'histoire de la pensée comme un chidouche, je traduis le mot, comme un renouvellement des données, comme une nouveauté radicale, et elle va rester invraisemblable. Cette attitude de la conscience hébraïque, elle va rester invraisemblable pour la pensée humaine universelle telle que nous la connaissons encore aujourd'hui. Je résume, le fait que l'absolu puisse parler au contingent, disons, eh bien, c'est inouï pour la pensée. Encore une fois, il faut retrouver notre familiarité biblique pour nous rendre compte qu'elle ne va pas de soi. Et cela n'était possible que parce que Moïse était humble. Voilà donc la donnée du problème auquel nous sommes arrivés en termes d'analyse de l'introduction. Alors, je vais reprendre cette citation sur ce point précis. Vous prendrez donc à la fin du début de la deuxième colonne, après la référence de la Gemara de Shabbat qui est entre parenthèses, Ruil ou mi'atta et atzmecha, tikare Torah al shimcha, puisque tu as amoindri ta personne, tu t'es rendu petit. Vous comprenez l'idée, tu as été modeste, humble. Et alors la Torah sera nommée de ton nom, Shenehemar, ainsi qu'il est dit, c'est un verset de Malachi à la fin de la prophétie, de Malachi et en général lors du canon biblique, c'est un des derniers versets de la prophétie, Zichru Torah Moshe Abdi. Souvenez-vous, mémorisez la Torah de Moïse, mon serviteur. Voilà que la Torah est appelée la Torah de Moïse. Alors, c'est là où nous étions arrivés et nous avons passé un moment assez long à réfléchir sur le premier mot du verset « Zichrou ». Souvenez-vous de mémoriser. Et là, par un autre bien encore, eh bien, j'ai tenté de mettre en évidence le fait que le contenu de connaissance, d'information de la Torah ne peut pas procéder du génie humain, de la formulation autonome, de la raison humaine, parlant de la vérité et obtenant comme résultat le contenu de la Torah. Il y a là encore, si vous voulez, un malentendu dans le postulat du discours philosophique juif contemporain, comme si ça allait être soi, une espèce de consensus non dit, non formulé entre l'auteur et le lecteur, que bien entendu, lorsqu'on parle des contenus de la Torah, c'est le produit du génie de la raison humaine, avec une espèce, comment dire, de fierté non dissimulée. Nous, les Juifs, avons été capables de cela. Je ne sais pas si j'arrive à vous montrer le caractère, comment dire, je cherche le terme, je ne voudrais pas dire malhonnête, il faudrait que ce soit vraiment conscient, mais le caractère infantile d'une telle attitude, au fond, ça trompe personne. Non, mais malheureusement, oui, ça trompe beaucoup. Mais tout le monde passait le sandwich. Or, nous sommes branchés, en fait, sur ce problème. Qu'est-ce que ça veut dire, la Torah de Moïse? Est-ce que ça veut dire que c'est le génie de Moïse qui a permis l'existence de ce qu'à tout le moins, même les non-croyants de la révélation appelleront le fait culturel, je l'appellerai comme ça, le fait culturel que représente la Bible? Alors, il y a, là aussi, c'est un sujet pour lui-même, beaucoup de références, je vais me borner à ce que le texte indique, centralement en tout cas. Et une des questions que le Maharal se pose dans un autre de ses ouvrages, qui traite de la révélation du Sinaï, c'est pourquoi la Torah n'avait pas été révélée au premier homme? Pourquoi il a fallu attendre un temps de l'histoire? Nous présentons déjà que, selon son enseignement, il s'agit d'un temps de maturation, de préparation, ce qu'il a appelé « hachana », de l'acquisition des vertus indispensables, préalables, au fait que la Torah puisse être révélée, c'est-à-dire, dans les termes de l'exposé d'aujourd'hui, que l'absolu puisse trouver une oreille capable de l'entendre. Et le Maharal donne un certain nombre de réponses, desquelles j'isolerai un élément qui me semble extrêmement important, sur lequel je vais revenir en citation d'ailleurs, c'est que la Torah, étant la vérité à l'échelle de l'universel, ne peut pas s'adresser a priori à l'individu comme individu. Il fallait attendre qu'une société puisse être apte à recevoir la Torah. Parce que seule une société est une réalité de l'ordre de l'universel et peut recevoir par délégation de l'universel cette communication de la Torah pour l'universel. Et là, il y a une définition d'une des catégories fondamentales de la foi juive, c'est que il faut, et je crois elle est absolue, cette indication, c'est que Dieu ne s'adresse pas à l'individu comme individu, il s'adresse à sa création tout entière. Et il y a le cas particulier de l'individu grâce à qui cela a été possible, mais qui est traversé par cette intention de l'universel qu'il y a dans le fait de révélation. En d'autres termes, la Torah qui concerne l'universel humain n'a pu être transmise grâce à Moïse que lorsqu'Israël comme société, Israël comme collectivité, était apte à la recevoir au nom de l'universel humain. Il y a donc, si vous voulez, deux niveaux du problème. L'importance du temps de maturation qu'il a fallu dans l'histoire de l'humanité pour qu'il y ait une société qui se nomme Israël, qui est l'identité d'Israël. Lorsque Dieu révèle la Torah, il la révèle à Israël, parle aux enfants d'Israël, c'est-à-dire à une collectivité. Sur ce point, je crois qu'il n'y a pas de difficulté à le comprendre, parce que, encore une fois, un individu ne représente pas l'universel. C'est un cas particulier dans l'universel, et quel que soit son génie propre, son envergure, son exemplarité, cela reste il reste le risque d'une tradition qui serait fondée sur le mythe de l'histoire d'un individu. Fut-il Abraham, fut-il Moïse. Vous voyez jusqu'où cela va. Hein? Mais d'autre part, le cas particulier de Moïse, qui a été cette personne individuelle grâce à qui l'événement de révélation à l'universel a été possible. Est-ce que c'est suffisamment clair? Donc il faut remettre en évidence les expressions simples de la Torah qui sont tellement qui nous sont tellement familières qu'on n'y prend plus garde. Parle aux enfants d'Israël. Tout de suite, dès que Dieu a dit quelque chose à Moïse en ce qui concerne la Torah, eh bien c'est parle aux enfants d'Israël. C'est une phrase très importante. Et lorsque Moïse s'adresse au nom de Dieu à Israël, il ne dit jamais « Mon Dieu vous a dit de, m'a dit de vous dire, mais votre Dieu m'a dit de vous dire. » Il y a là un cas particulier dans toute l'histoire des religions. Nulle part ailleurs, ça se passe comme ça. Et la citation que je voudrais vous faire, qui se trouve dans la Gemara de Shabbat, est la suivante. Donc, lorsque le Maharal a posé la question « Pourquoi pas au premier homme ?» de l'ensemble très très riche et très fécond des réponses qu'il cite au nom des sources, apparaît cette perspective que j'ai essayé de formuler parce qu'il fallait le temps de préparation de la nation d'Israël à qui la Torah est confiée, encore une fois, au nom d'une délégation pour l'universel humain. Bon. Et alors le Maharal pose la deuxième question, et pourquoi ça commence pas avec Abraham? Pourquoi la Torah n'est pas révélée à Abraham? S'il fallait attendre l'identité d'Israël, nous avons déjà une partie de la réponse. Abraham, c'est encore un individu fondateur du clan, de la collectivité. Mais c'est au temps de Moïse que la collectivité émerge en tant que collectivité. Alors, c'est ce que raconte le texte auquel fait allusion la fin de la citation de Taranit, et texte qui se trouve dans le Gemara de Shabbat. Lorsque Dieu a donné la Torah, il y a eu un vide dans les univers. La Torah quitte l'absolu, et dans l'absolu, on ressent qu'il manque l'essentiel. Je vous parle en termes de Midrash talmudique. Okay? Alors, je résume, parce que c'est assez long d'analyser dans tous les détails. L'ange du ciel demande à Dieu où est la Torah. Et Dieu répond, ben, je ne sais pas. Demande à l'ange de la mer. L'ange de la mer demande à la mer où est la Torah. Je ne sais pas. Demande à l'ange de l'abîme, etc. Tout ceci s'étudie, c'est très important à comprendre à quoi il est fait allusion. Et finalement, le dernier des interrogateurs se tourne vers Dieu et dit, mais la Torah, où est-elle? Imaginez un monde sans Torah. Je veux dire, imaginez un monde, l'ensemble des univers, sans une référence à la signification de l'existence, du fait que les univers existent. Alors, en fin de compte, Dieu répond, va chez Moshe ben Amram, va chez Moïse, fils de Amram. Et alors l'ange des anges va chez Moïse, fils d'Amram, et lui demande la Torah. Et Moïse dit, la Torah, moi? Il y a dans ce moi toute la modestie de Moïse. Va, moi la Torah. Okay. Vous comprenez à peu près l'attitude. Alors c'est là que Dieu lui répond. Celui que Dieu dit cette phrase, puisque tu as été modeste, elle sera nommée de ton nom. Est-ce que c'est clair? Donc. Et je reviens un peu en arrière. C'est que quand je vous ai signalé que Moïse est donc le médiateur, je crois qu'ici le mot a son sens exact, non pas l'intermédiaire, un intermédiaire qui interviendrait pour y mettre son équation personnelle, mais le véhicule de médiation de la Torah, encore une fois de l'absolu du Créateur, à l'absolu de l'universel de la création. Il s'agit donc d'un être exceptionnel. Et en particulier, vous vous souvenez sans doute de cet enseignement que Moïse équivaut à tout Israël. Il a son identité individuelle, mais en même temps, il a une identité d'ordre collectif. Shakul Moshe Keneged Kol Israël. Moïse équivaut à tout Israël. Il faut se mettre à tout Israël pour équivaloir à cette capacité de Moïse tout seul de recevoir la Torah qui s'adresse à l'universel. Et il est évident, le Maharal insiste beaucoup là-dessus, que Dieu a eu des choses particulières à dire à Moïse en particulier. Et la Torah y fait allusion, disons, à tel ou tel épisode de l'histoire, de la longue histoire de la révélation de la Torah à travers Moïse pour l'universel humain. Il y a eu des dialogues particuliers entre Dieu et Moïse, mais la Torah n'y fait qu'allusion. Il n'y a que quelques rares passages où il est important qu'on le sache, où c'est formulé ce que Dieu a dit à Moïse en parlant à Moïse. Moïse individu. Mais, encore une fois, lorsque Dieu parle à Moïse en tant que véhicule de médiation de la révélation pour la créature, pour la création tout entière, eh bien, il s'agit de la Torah pour Israël. Alors, une des précisions que je voudrais, sur lesquelles nous allons réfléchir, c'est la différence du sens du nom de Abraham. Abraham se nommait primitivement Abraham, et du nom de Moïse dans ce midrash, Moshe ben Amram. Vous voyez, Abraham, ça veut dire le père élevé. C'est le fondateur de la nation, Abraham. Mais il est encore un individu, une personne. Une mitzvah le concerne, elle lui sera révélée, la circoncision. Tandis que comment le midrash nomme Moshe dans ce sujet, Moshe ben Amram. Et Amram, ça veut dire le peuple élevé, Amram. Et donc la différence de niveau d'identité. On pourrait s'étonner effectivement pourquoi cet intitulé d'état civil, apparemment trivial dans un midrash aussi important, Moshe Rabbeinu, comment on l'appelle, Moshe ben Amram, juif fils de juif, Pashut, on passe, pas du tout, on passe pas. Il y a là une identité particulière, Moshe ben Amram. Est-ce que c'est clair? Et alors, je crois que la définition de la modestie dont il est parlé ici, c'est d'effacer l'orgueil de l'équation personnelle de l'individu comme tel par rapport à son propre peuple. Je crois que c'est là qu'est la Hanava qui a permis à Moïse d'être le médiateur de la réception de la Torah. Lorsque nous reprendrons ces sujets, surtout en confrontation avec la position philosophique, eh bien nous verrons que nous sommes au centre de la question. Il y a un orgueil de la pensée individuelle du philosophe, mais d'orgueil entre guillemets, enfin nous y reviendrons, et c'est ce problème qui est désigné ici. Il y a modestie dans celui qui est véhicule de la médiation de la révélation prophétique. Et qu'est-ce que c'est que cette modestie? Eh bien, c'est précisément effacer son équation, disons son ego, comme diraient les psychologues, okay, son ego personnel, pléonasme, peu importe, par rapport à l'identité collective, universelle. Et il n'y a d'identité collective, universelle, par rapport à ce problème, que celle d'Israël. Je pense que c'est suffisamment clair, mais je vous donne un autre exemple. Vous savez qu'au moment de la sortie d'Égypte, il a fallu qu'un des Hébreux ait le courage d'avancer dans la mer pour que l'événement se produise. Vous vous rappelez de cela? Or, cet Hébreu-là, qui fait partie de la tribu de Juda, s'appelle Nachshon ben Aminadav. Et vous retrouvez dans le terme de Aminadav, la signification analogue à Amram, okay, ça veut dire volontaire pour mon peuple, Aminadav, où mon peuple a suscité cette nedivut, générosité d'engagement. Alors je crois que là, il y a un point extrêmement important, parce que ça nous aide à comprendre de quelle nature est cette modestie, cette humilité dont il est parlé. Et je crois que ça peut nous servir de critère de diagnostic. Lorsque la pensée humaine s'instaure sur la base, sur le fondement du jeu, du sujet qui parle, je pense à la phrase de Descartes, d'une autre manière encore, « je pense donc, je suis okay », alors il y a là l'attitude caractéristique de la pensée philosophique et qui est absolument opposée à celle de la anava, modestie, humilité indispensable à ce que la révélation de la Torah, c'est-à-dire la vérité pour l'universel, puisse se révéler. Et en cela, nous sommes radicalement différents, d'une part de la tradition de pensée philosophique, mais d'autre part de la tradition de la foi chrétienne, qui fait passer par l'équation personnelle d'un quelqu'un, représenterait-il symboliquement l'identité d'Israël, ce qui est d'ailleurs le cas dans les couches mystiques du christianisme qui ont été oubliées par la conscience chrétienne elle-même, en fait, c'est notre problème, parce qu'il s'agit d'un individu qui finalement se trouvait érigé comme idole, bloquant la révélation entre Dieu et l'homme. C'est la bifurcation, si vous voulez, qui se passe à partir de ce que j'appellerais le mythe christique et qui a séparé la tradition chrétienne du judaïsme, s'enracine à ce problème-là. C'est-à-dire la référence au médiateur de type Christ, c'est le contraire de la référence au médiateur de la révélation par Moïse. Le contraire, l'absolu. Le contraire absolu. Et c'est pourquoi j'ai eu l'occasion une fois de le définir ainsi, qu'il y avait déjà tous les fondements de l'antijudaïsme, donc de l'antisémitisme théologique, dans ce changement d'attitude, parce qu'il y avait un personnage de trop. C'était ou le médiateur individuel ou le peuple. Et alors, en réalité, dans l'histoire, ce qu'on a mis en croix, c'était le peuple. Je pense que c'est clair. Hein. Bon, je referme la parenthèse. Voilà donc pour cette question, et nous allons pouvoir maintenant nous introduire dans le commentaire plus explicite, cette fois du Maharal, sur les comparaisons que le Midrash a fait entre la Torah comme connaissance de vérité et l'eau, le vin et l'huile. Vous vous rappelez de cela? Il y a une parenthèse à ouvrir, monsieur vous l'avez indiqué hier, il y a aussi le miel, Ken, mais je le dirai très rapidement, ce n'est pas tellement le sujet, le Maharal a toujours l'habitude de désigner une catégorisation des mondes en trois niveaux et non pas en quatre. Si cela vous intéresse, je peux vous redonner l'indication un peu plus explicite. Le Maharal parle souvent du monde inférieur, du monde intermédiaire, du monde supérieur, et parce que le Maharal formule son enseignement à partir des bases de la Kabbalah, mais le formule au niveau du Torah Taniglé, c'est-à-dire de la Torah dévoilée, non pas de la Torah cachée. Je dis ça de façon très résumée, pour pas que ça ne prenne trop de temps. Et il ne s'occupe que des trois niveaux inférieurs de la révélation de l'être, c'est-à-dire en termes de Kabbalah, je vais vous donner rapidement, de bas en haut, Asiya, Yetzira, Beria. Alors qu'il y a cinq niveaux, c'est Asiya, Yetzira, Beria, Atzilut, Keter Elyon, je vais le dire comme ça, et le Maharal ne désigne dans son analyse que les trois inférieurs, qui correspondent dans les degrés de la Neshama, de l'âme humaine, à Nefesh, Ruach, Neshama. C'est pourquoi, lorsque vous avez toujours ce type de question, là où habituellement, dans la tradition de la Kabbalah, nous avons quatre niveaux qui sont cinq, comment se fait-il que le Maharal ne parle que de trois niveaux? Parce qu'il ne parle que du monde, des mondes manifestés, qui sont les trois inférieurs, les deux supérieurs sont appelés les mondes non manifestés. Bon, je referme la parenthèse. Tout à l'heure, après le cours, nous parlerons de votre question. Voilà, ce que je voulais rappeler, maintenant nous sommes devant le texte que nous n'avons pas encore lu. Avant de l'aborder, si vous avez une question, on vient de le voir, on pourra l'élucider. Puis dans 5-6 minutes, on aborde le texte. Vous avez la parole, Ken. Oui, je vous écoute.
Pour écarter les philosophes, quand il dit « je pense
attendez,
donc
le... » Ah, pour Descartes.
Oui, quand vous citez donc les philosophes, pour Descartes, quand il dit « je pense donc je suis », à la limite, il veut dire « je pense donc je suis Dieu », là, il y a l'orgueil incommensurable.
Chez Descartes, c'est pas évident. Chez Spinoza, c'est pas évident. Chez Descartes, c'est pas évident. Descartes était croyant. Descartes était un chrétien croyant. Parmi les grands états, s'il était vraiment pratiquant de manière orthodoxe, il était simplement chrétien. C'est l'exemplarité de l'honnêteté chez Descartes. Et qu'il n'a jamais, en tout cas il a donné suffisamment d'indications pour qu'on ne s'y trompe pas, il n'a jamais confondu son exploration philosophique de la vérité et sa foi chrétienne. Chose peu connue d'ailleurs, vous savez qu'il s'est affilié, enfin c'est quelque chose qui est suffisamment dit chez les historiens, il s'est affilié à une secte mystique chrétienne, c'est celle des Rose-Croix. Et quand on est Rose-Croix, hein, on est croyant. Je suppose, par définition. À la manière bon, de ces sectes mystiques chrétiennes, mais ça existe. Je me souviens qu'on demandait à Descartes, mais est-ce que toi, Descartes, tu crois au Dieu de Descartes, celui dont il parle dans les méditations philosophiques Il répond non, je crois au Dieu de ma nourrice. Et je crois que c'est une réponse très honnête. Okay. Eh bien, je ferme la parenthèse. Je crois que là, Descartes serait un cas particulier d'honnêteté. Okay. Alors que chez Spinoza, il y a quelque chose d'assez trouble. Tout porte à penser que Spinoza a été pris de cette folie des grands juifs qui se prennent pour Dieu. Et il y en a.
Hein. Oui.
C'est pas simple. y a des risques.
C'est vrai que pour un conseil aux gens qui ne sont pas capables de décider par eux-mêmes, de suivre les religions et les coutumes du pays dans lequel ils sont.
C'est un sujet très important. Oui, c'est un sujet très important. C'est une position très analogue à celle de l'enseignement du judaïsme par rapport au monarchisme. C'est-à-dire, c'est très parallèle, vous comprenez. Je crois que c'est positif, ce qu'il y a, c'est pas ironique. Vous savez que Descartes a génialement établi cette preuve du cogito, comme on dit, sur l'analyse du malingénie trompeur. Alors on lui a demandé pourquoi il s'est jamais marié, il avait peur d'être trompé. C'est anecdote.
En quoi la collectivité d'Israël est-elle faite? Quelles sont les conditions essentielles pour qu'elle forme une collectivité?
C'est le résultat de son histoire. Depuis le commencement de l'histoire de l'humanité jusqu'à la sortie d'Égypte. Et la Torah revient très souvent. Pourquoi Israël est condamné à être ce qu'il est, c'est-à-dire ce peuple à part, ce peuple extraordinaire, etc. C'est parce que vous avez vécu l'expérience de la foi, qui était quoi? L'exil et la libération. C'est ça, la foi unique, la Géoula. Quand je vais expliquer dans un séminaire, je vais prendre également de 50 ans de questions.
C'est-à-dire, au fond, la foi d'Israël formule au niveau d'une lucidité, les yeux ouverts, la foi de toute créature, quelle qu'elle soit. Parce que, à travers, quelle que soit sa tradition culturelle, spirituelle, religieuse, fût-elle mythologique, païenne, plus ou moins. Parce que la condition de créature, c'est la condition d'exil. Et l'exigence du salut, c'est d'être sauvé de cet exil d'être de créature. Alors ceci est vécu à l'échelle existentielle historique par une manière d'être homme qui est Israël. Et c'est parce qu'elle a eu cette expérience-là que la société d'Israël est désignée comme Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh. Maintenant que vous savez de quoi il s'agit, vous serez les prêtres des autres nations. Je pense que c'est suffisamment clair, Ken. C'est-à-dire, sans le savoir, tous les hommes qui croient, qui ont une exigence de salut, sans le savoir, au fond, désigne ce qu'a été l'expérience d'Israël. On peut être sauvé de la situation d'exil. Pourquoi c'est important? Nous savons que c'est dur. Hein, okay. Pourquoi, vous le savez, pourquoi c'est important? Eh bien, parce que, fondamentalement, même si c'est, comme dirait Madame Amadou-Alinsi, c'est devenu un refoulé de la conscience humaine, eh bien, c'est de cela que l'existant du monde a exigence, lorsqu'il pense au salut, d'être sauvé de la situation d'exilé. Parce que être créature, ça veut dire être exilé du créateur. C'est cela qui fait le drame de la conscience de la créature, qui, comme vous le savez, nous sépare des goïms, parce que les goïms considèrent cette situation comme tragique, ça veut dire sans issue, et il faut une opération magique pour être sauvé. Hein ? Est-ce que c'est clair ce que je dis là ? Alors que la conscience hébraïque est dramatique à ce niveau, optimiste. Nous savons que ce salut est possible parce que nous l'avons vécu. Et à l'échelle la plus dramatique, c'est-à-dire de la véritable situation d'exil. Alors, vous comprenez que dans ce problème, il y a un couple d'expériences qu'il ne faut jamais séparer. Et le drame de la société juive contemporaine, c'est, après 2000 ans d'exil, d'avoir pas encore réussi à récupérer ce trait d'union, Galut Geoula, le génie du Maharal d'ailleurs, qui l'a montré. Galut Geoula. Et alors, si on les sépare, on ne comprend plus rien. Si on les sépare, alors ceux de la Galut disent, la destinée d'Israël, c'est l'exil, nous sommes maudits. Hein, et ceux de la Geoula disent, nous sommes sauvés, alors que ce n'est pas encore le cas complètement. Vous comprenez? Bon, je n'ai pas préparé cette formule, mais vous comprenez. Et c'est cette expérience-là qui a fait que Israël a été celui qui a reçu la Torah pour l'universel lui-même.